Le Salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023 sur Radio Immo et Radio Patrimoine.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Salon du patrimoine immobilier, premier du nom. On est ici en plein cœur de Paris, au Carreau du Temple, et on est ravis d'accueillir Francesca Barral. Bonjour Francesca.
Bonjour.
Vous êtes responsable national et promoteur d'Artemis Courtage, groupe Odéalim, et à vos côtés, Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic.
Bonjour Fabrice.
Le cofondateur d'Artemis Courtage. Alors, messieurs, dames, avec vous, on va parler de la situation, effectivement, du crédit en France, hein, qui se complique. On apprend qu'on a une chute des crédits IMO de moins 32% en un an en février, hors renégociation. Ça se tend, ça se complique. Pourtant, vous aviez prévenu. Mais on peut dire que Bercy et notamment la Banque de France a mis du temps à réagir, notamment sur les ajustements des taux d'usure, Ludovic.
C'est pas faute d'avoir prévenu, vous avez raison, hein, c'est un euphémisme. On crie et on a peut-être crié un peu trop tôt, mais effectivement, ça fait un petit moment qu'on envoie des messages en direct de nos réseaux parce qu'on est en première ligne et qu'on est dans un moment instantané, c'est-à-dire au moment de la recherche d'un crédit par nos prospects ou nos emprunteurs. Ça faisait un petit moment qu'on expliquait qu'il y avait des barrières à l'entrée, des barrières au crédit. Et effectivement, ça fait aussi un petit moment qu'on explique que nous, on est dans l'instantanéité en tout cas, quand les chiffres de la Banque de France ou des notaires sont décalés aux alentours de 6 mois. Et là, le constat, il est quand même effectivement cinglant. C'est une baisse de production d'à peu près un tiers. Et on commence à avoir les premiers ajustements, les premières demandes d'audit, de marché, peut-être de changement de réglementation. On va le voir tout à l'heure avec...
Évidemment, là, c'est en train peut-être de bouger. Francesca, vous, sur le terrain, avec vos clients, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, c'est-à-dire des dossiers qui ne passent pas, qui sont encore bloqués malgré les ajustements, notamment sur le taux d'usure?
Alors oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu apparaître l'année dernière, sur la fin de l'année, sur les 6 derniers mois. Qui a été effectivement la hausse des taux. Donc on a diminué aujourd'hui la capacité d'emprunt sur les jeunes profils, mais je pense que ça va se réguler quoi qu'il arrive sur l'année 2023, parce que le marché reste quand même aujourd'hui une réelle demande. Alors oui, on a effectivement aujourd'hui une typologie de clients qui n'aura plus accès à la même capacité d'emprunt pour des résidences principales, pour de l'accession à la location. Effectivement, l'investissement locatif aujourd'hui
reste
très intéressant, mais restreint sur certains profils qui n'ont plus les mêmes capacités d'emprunt que sur l'année 2021 ou 2020.
Oui, on dit qu'on perd entre 10-15% de capacité d'emprunt. Ça doit être une pièce à peu près sur un bien, c'est ça?
C'est ce qui représente à peu près.
Parler du T3 au T2,
tout à fait. On passe du T3 au T2 et du T2. Alors sur le studio, c'est un peu compliqué parce que le T1 reste quand même plus cher aujourd'hui sur le prix au mètre carré. Donc on est effectivement sur une typologie, mais qui risque de se débloquer dans les prochains mois.
Et vous confirmez, Francesca, que en tout cas l'appétence des investisseurs ou des porteurs de projets est toujours là. Les gens veulent faire de l'immobilier.
Encore plus qu'avant.
D'accord. Ludovic, on passe à l'actu. Effectivement, cette contrainte, elle serait peut-être en train de se desserrer. En tout cas, il y a eu des discussions très récentes entre Bercy et le Trésor et la Banque de France.
Exactement. On s'est longtemps focalisé sur le taux d'usure, hein, qui était un problème réel, qui a été mensualisé à partir de février et qui doit l'être au minimum jusqu'à juillet. Ça a réglé certains problèmes, notamment de fluidité et d'accès au crédit. Mais le vrai problème, le saillant et en tout cas sous-jacent, c'est qu'en un an, les taux ont plus que doublé et qu'il y a une norme...
Ils ont presque triplé même.
Quasiment, sur certaines durées, effectivement. Et qu'on est normé, il y a une norme HCSF, au Conseil à la stabilité financière, qui interdit de s'endetter dans la plupart des cas au-delà de 35%. C'est-à-dire que la mensualité de crédit plus l'assurance ne doit pas représenter plus de 35% des revenus. Et c'était pour tout type de projet. C'est-à-dire que vous financiez votre résidence principale ou que vous envisagiez un investissement locatif ou d'autres achats.
Oui.
Restreignait ou empêchait l'accès au crédit pour des ménages très solvables avec un reste à vivre très confortable qui avaient déjà emprunté pour la résidence principale, qui s'en sortait parfaitement bien, qui envisageait après de constituer son patrimoine, de continuer à constituer son patrimoine en faisant un investissement locatif. Pour la plupart, ils étaient empêchés par cette norme. Et donc, il y a eu effectivement une petite passe d'armes entre la Banque de France et Bercy, notamment hier, où la Banque de France a rappelé avec beaucoup de vigueur l'intérêt de ces normes,
oui,
et où Bercy a proposé quand même un réajustement et un redéploiement de ces normes probablement à partir du mois de juin pour redonner un peu de souplesse à l'accès au crédit pour les investisseurs locatifs. Pour qu'on puisse...
Dans le sens d'un assouplissement. Alors, oui, est-ce que ça va changer les choses? On parlait tout à l'heure des primo-accédants pour qui ça devient compliqué. Eux, ça va rester compliqué. C'est plus pour les ménages peut-être aisés qui sont en cours d'acquisition de leur résidence principale?
Pas forcément. Pas forcément. Alors, c'est vraiment un accès au crédit facilité pour les investisseurs locatifs qui ont été quand même, avec les primo-accédants, les plus pénalisés par ces normes HCSF et par l'augmentation des taux.
Oui.
Et du coup, le marché est quand même aussi en retrait sur ce marché de report d'investissement locatif. Sous quelle forme ça va se passer? Soit les banques auront plus de flexibilité et peut-être un peu plus que les 20% qui étaient prévus par la loi. Soit on reviendra sur des calculs, c'est un peu technique, mais des calculs qui sont plus avantageux dans le cadre d'un investissement locatif.
D'accord.
On fera ça par différentiel, en retranchant le loyer de la future mensualité, et ça obérera un peu moins la capacité d'emprunt. C'est un peu compliqué, mais ça permettra en tout cas à plus de ménages de pouvoir accéder à l'investissement locatif, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Je vous donne un chiffre dans notre réseau, par exemple. On a l'habitude dans le réseau Artemis Courtage, historiquement depuis 15 ans, les chiffres varient peu. On a toujours entre 18 et 22% de notre production qui est destinée à financer de l'investissement locatif.
Oui.
Ce sont des chiffres qui ont la peau dure et qui existent quasiment depuis la création de ce réseau que j'ai cofondé. Ça, c'était avant. Depuis 3 ans, depuis le premier confinement, depuis 2020, on est entre 10 et 12%. Donc, on voit vraiment qu'il y a...
Diminué.
Ça a bien, en variation, c'est quand même assez violent, parce que c'est quasiment divisé par deux. Il faut redonner... une bouffée d'oxygène à ces investisseurs qui ont de l'appétit. Francesca l'a rappelé, mais on a beaucoup de demandes sur des demandes de cotation, sur des demandes d'échange sur ce neuf, et notamment sur le côté investissement locatif. Et il y a beaucoup de dossiers, oui, qui sont solvables avec un reste à vivre très important et qui se heurtent à ces barrières HCSF. Il faut détendre un petit peu.
Donc il est temps que ça se détende.
Ces barrières, exactement.
Et en juin, on va espérer, on va croiser les doigts pour que ça se fasse. Francesca Barral, justement, si on revient sur les clients et voilà, les tendances pour 2023, qu'est-ce que vous observez? Les gens vont vers quoi? Alors, on a toujours le LMNP, on a les résidences gérées, on a le Pinel qui commence à s'étioler un petit peu. Qu'est-ce qui a le vent en poupe pour ce début d'année?
Alors déjà, on en remarque aujourd'hui que c'est beaucoup les jeunes qui, oui, pensent énormément à...
Alors les jeunes pensent à la retraite, c'est vrai.
Tout à fait.
C'est curieux.
Et bon, on se rend compte que sur les 10 dernières années, on arrive sur une typologie entre 25 et 35 ans.
Aujourd'hui, ah oui, si jeune que ça, d'accord.
C'est un réel souci, la retraite, des compléments de revenus. Donc c'est vraiment quelque chose, à mon sens, effectivement, c'est énorme aujourd'hui. Si on arrive à pouvoir demain les financer sur la partie crédit, ça va relancer le marché, parce que les jeunes, de plus en plus, pensent à se constituer un patrimoine. Alors on fait toujours très attention au sein du réseau Artemis, parce que beaucoup ne sont pas encore propriétaires de leur résidence principale, et ça reste quand même un vrai sujet aujourd'hui. Donc on privilégiera toujours l'accès à la résidence principale,
oui,
dans le neuf ou dans l'ancien, avant un premier investissement locatif. Mais on a une demande, on a des très bons résultats sur le réseau, on a une réelle demande sur ce marché. Alors effectivement, après, sous quelle forme? Le meublé non géré, parce qu'on est quand même dans la tendance du marché 2023-2024 avec le Pinel et les restrictions aujourd'hui avec le taux à 15, quand même, ouais, sur le Pinel dégradé. Donc ça change littéralement les simulations. On reste encore sur du 18 sur des quartiers QPV, mais ça reste une
minorité. QPV, ça veut dire quoi?
Quartier prioritaire de la ville.
D'accord.
Donc là, on est éligible dans l'intégralité à 18%, mais ça reste encore une minorité des programmes qu'on peut proposer aux clients. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a une chose à prendre en considération qui est très importante. Le meublé, oui, non géré, mais en fait sur certains critères. Parce qu'il faut d'abord au préalable avoir fait une étude de marché, savoir si effectivement le marché prévoit la location et la gestion sur du meublé. Donc on va vraiment diriger nos clients entre, on l'a vu depuis le début de l'année, le Pinel, les gens arrivent beaucoup avec une appréhension entre les 15%, le 18%, les nouvelles normes. Et beaucoup aujourd'hui viennent vers nous en nous disant, mais nous on veut faire du meublé.
D'accord.
On veut faire du meublé.
Mais est-ce que là, vous nous disiez, est-ce que c'est les mêmes typologies de clients, les jeunes pour préparer leur retraite ou la défiscalisation, peut-être des gens plus seniors ?
Non. Alors honnêtement, il y a eu vraiment un changement la dernière année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le cadre de constituer une retraite. L'avantage fiscal, je pense qu'il arrive vraiment comme la cerise sur le gâteau, parce qu'avant tout, il ne faut pas qu'on oublie qu'on fait un investissement immobilier.
D'accord.
Donc le plus important reste l'emplacement et l'immobilier. Et après, à nous de voir si c'est intéressant et éligible d'avoir un avantage fiscal ou de mettre cet appartement en location meublée non gérée. Mais avant tout, il ne faut jamais oublier que ça reste un investissement immobilier de la constitution de patrimoine. Donc on commencera toujours dans ce sens-là pour nos clients.
D'accord, donc la résidence principale, première étape si on
tout
peut.
À fait.
Après on peut imaginer qu'il y a des gens qui préfèrent rester en centre-ville, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter, mais ils veulent quand même se constituer ce patrimoine. Et donc c'est pas mal aussi de faire cet effort. Et puis, voilà.
Il ne faut pas oublier que la résidence principale reste quand même le meilleur investissement, puisque c'est le placement retraite le plus sûr, avec une charge en moins pour prévoir l'avenir.
Ouais.
Donc ça reste quand même aujourd'hui le plus important. Il faut commencer par l'investissement de la résidence principale. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on fait vraiment, ce qu'on veut véhiculer, c'est dans notre ADN, de conseiller même les jeunes aujourd'hui. On ne sait pas, il y a des évolutions de carrière, des changements, mais de commencer par la résidence principale.
Bon, c'est bien, on révise avec Francesca les bases de la gestion de patrimoine, de la constitution de patrimoine. C'est vrai que la RP en fait partie, ça sécurise. Et puis, on parlait de charges financières, charges mentales aussi. On sait qu'on a un toit sur la tête, au propre comme au figuré, et que évidemment on n'aura pas cette charge sur les vieux jours. Ludovic, évidemment, il y a beaucoup de besoins de financement. On voit qu'ils ont été plus ou moins empêchés. On voit qu'il y a toujours, comme on le disait tout à l'heure, les Français qui ont ce besoin de se loger. Et pourtant, on a l'impression qu'entre la promotion qui est à l'arrêt, le financement qui est compliqué, l'environnement de taux, le pouvoir d'achat qui diminue, on a une véritable crise du logement. Certains en parlent ouvertement, qui est en train de se profiler. Quel est votre sentiment ?
Bah, c'est un sentiment qui est partagé. On expliquait que c'était peut-être la prochaine grande crise, cette crise du logement après les crises climatiques qu'on a vécues ces derniers étés ou ces dernières années. Le problème aujourd'hui, c'est que on construit pas assez de logements. On a édicté des normes d'investissement locatif ou d'accès à la location qui deviennent compliquées. Et donc, dans un même momentum, dans un même timing, on réduit le nombre de gens qui peuvent accéder à leur résidence principale. Et dans le même temps, on durcit les conditions d'accès à la location. Donc, on est déjà dans une période où on construit entre 150 et 200 000 logements en moins que ce qu'on devrait faire pour pouvoir faire face à la démographie française, et en plus de ces barrières d'accès au crédit, on a édicté des mesures contraignantes qui empêchent aux propriétaires de pouvoir louer correctement leurs biens. Je ne dis pas que ces mesures sont mauvaises et qu'il faut de toute façon rénover énergétiquement tout un parc de logements qui sont trop énergivores, dites passoires énergétiques. J'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que ça aurait pu être aider, cofinancer ou en tout cas avec des mesures d'incitation plutôt que des mesures de coercition dans une période comme celle-là où on a déjà du mal à sortir des dossiers d'acquisition de résidence principale pour des gens qui sont parfaitement solvables, on marche un peu sur la tête.
Compliqué effectivement avec ces mesures qui sont de plus en plus drastiques. Peut-être on a poussé les curseurs un petit peu loin. On termine avec l'activité d'Artemis Courtage, Francesca. Quand on va sur le site, on peut voir taux du mois 3,10% sur 20 ans. Mais ça, j'ai envie de dire, c'était avant, puisque ça n'en finit pas de grimper. Quelle est votre vision ? Vous anticipez quoi ? Une continuation de la montée des taux ? On pourrait se retrouver avec du 4, du 5 ?
4, je vais laisser répondre Ludovic parce que c'est la partie financement. Mais 4, on y arrive.
Bah, disons que
4, on y est pratiquement déjà.
Pas encore. Hein. On est pour des très bons dossiers aujourd'hui. On emprunte toujours sur 20 ans aux alentours de 3,10. Très beau dossier, c'est 20% d'apport et 70-80 000 euros de revenus pour un couple. Donc c'est pas tous les dossiers, c'est les très beaux dossiers. Après, vous avez raison, pour un dossier moyen sur 25 ans, on est déjà aux alentours de 3,50, 3,60 quand le taux d'usure est.
Et puisqu'il y a l'assurance aussi.
Exactement, à prendre en considération et moins d'un point au-dessus. Ce qui est certain, c'est que la hausse est soutenue, elle est intense, elle est même un peu violente. Parce qu'en moyenne, depuis un an, c'est aux alentours de 20 points de base d'augmentation chaque mois.
Chaque mois.
Depuis février 2022, chaque mois.
Voilà. Après, il y a peut-être un retour à la normale. On était sur des taux historiquement bas, à moins de 2%, on s'en rappelle.
Oui.
Voilà, ça remonte. Bah,
c'est toujours quand on vit dans des périodes bénies qu'on enfin, on s'en rend pas forcément compte quand on est dedans. Et puis, puis quand ça nous échappe, on se dit que c'était quand même sympa avant. En tout cas, effectivement, l'argent avait quasiment pas de coût et tout le monde avait accès au crédit sans trop de barrières. Aujourd'hui, c'est quelque part un retour à la normale. Le vrai problème, c'est que l'endettement est normé à 35% et que si les taux ont plus que doublé sur une année, les prix, eux, ont tout juste commencé à stagner ou à se déprécier. Mais en tout cas, les taux ont augmenté de manière beaucoup plus rapide que les prix n'ont commencé à baisser et ça donne quand même une baisse de pouvoir d'achat qui est spectaculaire.
Ouais, là aussi, il y a une inertie avant que les prix s'ajustent. Ça se fait dans d'autres pays beaucoup plus vite. Chez nous, il y a toujours cet effet un peu amortisseur avant qu'on prenne la mesure de la baisse.
Mais pour faire un pronostic ou un pari, effectivement, à la rentrée de septembre, on ne devrait pas être loin de 4% sur 20 ans.
Parfait. Eh bien, écoutez, merci pour ce point très complet sur ce qui pourrait arriver, en tout cas au niveau des taux d'intérêt, des taux de crédit. Merci à nos deux spécialistes, Ludovic Usio, le cofondateur d'Artemis Courtage, et Francesca Barral, responsable nationale des promoteurs chez Artemis Courtage, groupe Odéalim. À très bientôt sur notre antenne.
Beaucoup. Merci, au revoir.
Le Salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023 sur Radio Immo et Radio Patrimoine. Merci.